Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on vient donc d'explorer cette fameuse déclaration de revenus et on va continuer à rester un peu dans cette sphère fiscale en accueillant donc Stanislas Vaillen. Bonjour Stanislas.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine aujourd'hui. Vous êtes avocat associé en droit fiscal au cabinet Alerion et on va s'intéresser au transfert, au changement de résidence. Sous-entendu de résidence fiscale, bien évidemment. Quels sont les principaux motifs, finalement, qui, on va dire, poussent un contribuable à faire ce qu'on appelle donc ce transfert de résidence?
Je dirais qu'il peut y en avoir trois. Le premier des motifs, c'est un motif professionnel. Son employeur va lui demander d'aller développer une activité à l'étranger et il décide de partir avec toute sa famille et à ce titre, il va devoir faire un transfert de résidence. La deuxième raison que l'on voit parmi nos clients, cela peut être une raison que je qualifierais de culturelle ou religieuse. Pour certaines raisons, vous avez des confessions qu'ils souhaitent quitter la France pour rejoindre d'autres pays. Et puis vous avez des raisons, alors il y a une façon de le présenter, qui sont fiscales. Et c'est là où il y a une zone de risque, parce que quand on va sur ce terrain-là, on peut parfaitement quitter le territoire français parce que l'on recherche une fiscalité plus attractive. Mais si on le fait réellement et on ne garde pas de lien avec la France.
Oui.
Sous cette réserve, le transfert de résidence...
On n'essaye pas de jouer avec la ligne jaune.
C'est ça.
Bon. Alors justement, on quitte quand même les fourches collines de Bercy et donc forcément il y a des défis juridiques entre guillemets à prendre en compte. Quels sont les principaux? Alors on va pas faire une fiche ultra détaillée,
on
reste quand même à la portée de tout le monde, mais voilà, quels sont les principaux défis juridiques qu'un contribuable doit avoir en tête, prendre en compte, travailler, imaginer au moment où il se dit tiens, je vais partir.
Alors, déjà, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que les choses sont simples aujourd'hui. Jusqu'en 2004, il y avait ce qu'on appelait le mécanisme du quitus. C'est-à-dire, quand vous quittiez la France, dans les 30 jours qui précédaient votre départ, vous faisiez votre déclaration, vous la soumettiez aux impôts, et si ça allait aux impôts, vous receviez le quitus. Si ça ne leur allait pas, les conditions du départ étaient un petit peu différentes. Aujourd'hui, vous partez assez simplement, et tout va se passer au titre de l'année qui suit celle du transfert de résidence. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'un transfert de résidence déclenche l'obligation de payer l'intégralité de ses revenus jusqu'au jour du transfert. Si, postérieurement à votre transfert de résidence, vous continuez à avoir certains revenus de source française, comme des revenus locatifs, de location immobilière, ces revenus seront également déclarés. Tout ça se fera au moment de l'établissement de la déclaration dont vous parliez avec Jérôme Barré juste avant. Et puis, et c'est sans doute là où il va y avoir le plus d'enjeux fiscaux, il y a ce qu'on appelle le mécanisme d'exit tax, c'est-à-dire l'obligation pour le contribuable de déclarer un certain nombre de plus-values, les plus-values latentes, de même que les plus-values en report, avec des obligations déclaratives ou des contraintes déclaratives qui vont varier selon le pays dans lequel on transfère sa résidence.
Ah oui, parce que ça compte, ça aussi.
Exactement. Pour faire simple et sans rentrer dans des détails, si vous transférez votre résidence dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays signataire d'une convention avec la France qui comporte à la fois une clause d'assistance en matière de contrôle fiscal et en matière de recouvrement, et il y en a un certain nombre, eh bien, à ce moment-là... Ça se passe pas mal. Vous avez une obligation déclarative, mais un sursis qui vous est automatiquement accordé. Si en revanche vous partez dans un pays autre que ceux que je viens d'énumérer, eh bien vous allez déclarer de la même façon, mais vous allez devoir, si vous voulez ne pas payer immédiatement, solliciter un sursis de paiement. Et le sursis de paiement, il ne vous sera accordé que, un, si vous désignez un représentant, deux, si vous donnez des garanties.
Mais un représentant, c'est-à-dire, c'est quoi son...
Une personne qui est chargée d'assurer vos obligations fiscales en cas
Mais c'est quoi? C'est son frère, sa sœur, son oncle
Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'est normalement une personne, c'est des sociétés qui sont habilitées.
Ah oui, d'accord. Il faut choisir dans la liste des médecins agréés par la Sécu, quoi.
En quelque sorte.
Bon, comment est-ce qu'on... Parce qu'on comprend bien que même s'il y a une simplification, oui. Même s'il y a des zones dans lesquelles le processus va se faire de façon, on va dire, naturelle ou aisée, c'est quand même quelque chose, un acte administratif fort, et que on fait pas ça en claquant des doigts, qu'il y a des choses qu'il faut anticiper, qu'il y a des choses qu'il faut gérer d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on on doit s'y préparer? Voilà, je parle. On parlait de effectivement de tout ce qui est déclaratif. Vous en avez dit un mot, mais il y a aussi peut-être des pièges qu'il faut éviter. Enfin voilà, qu'est-ce que...
Alors, il y a des choses qui sont très pratiques. L'une des premières obligations qui est la vôtre, c'est de transmettre aux autorités administratives, quelles qu'elles soient, pas que fiscales, votre nouvelle adresse. Pour cela, il y a un site qui est formidable, qui est le servicepublic.fr, où vous pouvez en un clic informer la totalité des administrations, qu'elles soient sociales ou fiscales, de votre nouvelle adresse. Vous avez une obligation d'informer les administrations fiscales de votre nouvelle adresse. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a le pays dans lequel on arrive. Vous avez certains pays qui exigent de vous connaître, en quelque sorte. Je vais prendre un exemple au niveau de la Belgique. Tout près de
oui,
chez nous.
Là, on va pas très loin.
On va pas très loin. Eh bien, au niveau des autorités fiscales belges, vous avez une obligation d'immatriculation à la commune. C'est-à-dire qu'une personne qui devient résident fiscal en Belgique doit être immatriculée à la commune d'accord. dans laquelle il réside, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Et puis ensuite, on va plus loin. Je disais tout à l'heure qu'un transfert de résidence, il doit être réel. Bien, on en profite pour couper les ponts avec la France, c'est-à-dire que
oui. Et alors, comment ça se passe si quelqu'un veut garder ? Enfin, vous parliez tout à l'heure en même temps quasiment du fait qu'on peut avoir des revenus qui restent en France, par exemple des revenus locatifs. Donc, on peut avoir une partie de son patrimoine qui est
ça,
en France.
Y a
ou alors, on peut avoir j'allais dire le château de famille, mais ne serait-ce. Allez, limitons-nous à la maison, mais le bien familial qui est dans la famille depuis des générations qu'on peut souhaiter garder. Là, on coupe pas tous les ponts.
Alors, on ne coupe pas tous les ponts. Mais attention, parce que c'est là où on va regarder les critères de résidence. Vous avez des critères français.
Oui, ces fameux jours,
exactement.
Etc.
Les critères français sont des critères alternatifs. Ils se prennent dans n'importe quel sens. Vous avez le foyer d'habitation, le lieu de séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques. Si vous remplissez l'un quelconque de ces quatre critères, vous êtes, au regard du seul droit français, résident de France. Ensuite, vous avez les critères conventionnels qui priment dans la hiérarchie des normes. Les critères conventionnels sont des critères qui, à la différence des critères français, sont des critères successifs. Je les prends les uns à la suite des autres. Et généralement, dans l'ordre CDE, c'est foyer d'habitation, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour principal et la nationalité. Et alors, ça devient quelque chose de très spécifique, mais je vais prendre un cas que l'on rencontre parfois. Quand vous avez une personne qui a transféré sa résidence dans les Émirats Arabes Unis, pour des raisons totalement professionnelles. Eh bien, s'il y a une spécificité dans la convention signée entre la France et les Émirats Arabes Unis, qui fait que si vous remplissez l'un quelconque des critères français, eh bien, potentiellement, la France peut reprendre un droit d'imposer. Donc, c'est là où, en fonction du pays où on va, il faut faire assez attention et parfois couper vraiment les ponts.
Donc ça veut dire que le transfert qu'on choisit de faire, le pays vers lequel on va, la façon dont on part, etc., peut avoir un impact direct sur son patrimoine, notamment immobilier, parce que c'est le plus difficile, on va dire, à transférer. On va pas partir avec le chalet. Voilà, c'est-à-dire que ce transfert, il a un impact direct.
Alors, le patrimoine, il n'y a pas de problème à le conserver, en réalité.
D'accord.
Là où ça va être important, c'est votre résidence principale, ce qui était la maison où vous habitiez. Qu'est-ce que vous en faites ? Si vous la louez, j'ai pas de problème. Par définition, vous n'en avez pas à la disposition et ça ne permettra pas à la France de considérer cela comme un foyer d'habitation. Si vous la gardez en disant « Non, moi, quand je vis en France, je veux être chez moi. » Vous avez le droit.
Mais ça va
potentiellement, vous remplissez un critère. Alors, je n'ai pas dit que parce que vous gardiez votre maison, vous restiez résident de France. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous gardez un pied en France qui, sous réserve des autres critères, peut vous permettre...
Il y a un petit truc qui titille, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Mais pour le reste, gardez tout votre patrimoine immobilier, tout ce qui est loué, il n'y a aucun sujet.
Est-ce qu'on peut, je ne vais pas dire résumer, mais est-ce qu'on peut se dire, voilà, il y a X étapes clés qu'il faut absolument avoir notées sur son mobile, là, à l'issue de notre entretien, Stanislas Vaillant, pour finalement faire cette opération de façon, cette transition de façon douce
Ouais, je pense que le point le plus important, et on en a parlé un petit peu, c'est celui qui a trait à l'exit tax. C'est-à-dire que la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que oui ou non, je suis dans le champ d'application de l'exit tax.
D'accord.
Est-ce que j'ai des plus-values latentes? Et si oui, est-ce que sont dans les conditions d'application de l'exit tax? Est-ce que j'ai des plus-values en report? Et là, le simple fait d'avoir une plus-value en report, automatiquement, vous êtes dans le champ de l'exit tax. Ça, c'est la première des questions qui doit être posée. En fonction de ça, faire les déclarations qui vont bien, étant précisé que vous avez les obligations déclaratives l'année qui suit le transfert, mais les obligations déclaratives de suivi. Et le fait de ne pas faire une déclaration de suivi a potentiellement pour conséquence la perte du bénéfice du sursis au titre de l'exit tax. Vous avez certes une possibilité de régularisation. L'administration fiscale vous met 30 jours, vous met en demeure dans les 30 jours de régulariser. Mais si vous ne le faites pas, on sort du bénéfice. Donc ça, c'est à mon avis la première la chose la plus importante à avoir en tête.
Alors là, c'est, on va dire, la vie courante. Mm-hmm. Et puis, si on a décidé de partir, il peut aussi se passer le bout de la vie. Et donc, une succession, un testament, etc. Est-ce que là, pour le coup, le fait qu'on ne soit plus résident français, ça change la donne ?
Ben, pas forcément. Et ça va dépendre un petit peu des pays dans lesquels on part. D'un point de vue fiscalité, d'un point de vue règles applicables, normalement, on vous applique les règles d'une succession d'un point de vue fiscal du pays dans lequel vous êtes décédé. Ensuite, on va regarder les règles françaises. Les règles françaises de territorialité, l'article 750 ter, permet à la France de faire rentrer dans le champ territorial des droits de succession trois hypothèses. Le défunt est en France. Par définition, c'est pas cette situation puisque la personne a transféré sa résidence. Les biens transmis sont en France ou les héritiers sont en France. Donc ça, vous voyez bien que la France permet éventuellement de reprendre les choses. Ensuite, on va regarder la convention. Il y a beaucoup plus de conventions qui ont été signées par la France en matière de succession qu'il y en a en matière de donation. En matière de donation, il n'y en a que 9.
Ah oui.
En matière de succession, il y en a quand même beaucoup
plus.
Et là, la convention va permettre en fait de déterminer les modalités d'imposition selon la nature du revenu. Mais grosso modo, tout ce qui est actif immobilier restera taxable en France. Le reste, on arrivera généralement à ne pas le soumettre à imposition en France.
Eh bien voilà, vous en savez un petit peu plus ce matin sur ce transfert de résidence et la fiscalité qui s'y applique. Merci beaucoup, Stanislas Vaillant, donc, pour le cabinet à les rayons. Nous, on poursuit Cœur de patrimoine ce matin et on va s'intéresser à de nouvelles générations d'investisseurs. À tout de suite.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.